Il est 13h sur Radio Yo et comme tous les derniers lundis du mois, c'est joie, rage et courage. Une émission de son, d'interview, de lecture de texte pour parler d'un sujet à chaque fois, local et moins local. Et aujourd'hui, on va parler du design, bien sûr. Et à travers des textes et des sons et des expériences d'autres villes, aborder la question du design et de ses influences sur la société dans laquelle on vit, mais aussi dans les villes dans lesquelles on traîne. On va commencer par un petit mix avec nos amis de Télé7 et de Gala.
Pour les amateurs de design, les portes de la Biennale internationale s'ouvriront demain au public. Elles le resteront pendant un mois jusqu'au 9 avril prochain. 500 projets d'exposants venus de 40 pays seront présentés aux quelques 200 000 visiteurs attendus. Travail, la presse locale et étrangère est invitée à une visite en avant-première.
Hey, on vous ambiance hein, sur Radio Yo à 13h tous les derniers lundis du mois. Et donc on va vous parler du design. C'est le mot qui revient tout le temps et on a par curiosité regardé le journal local de la municipalité. Et donc dans le dernier numéro, ce mot design revient à 50 reprises. Par contre le mot précarité 0, violence policière 0, chômage 0, pauvreté 0, bref, à santé c'est design. Et à Joie, Rage et Courage, mais aussi sur Radio Dio, on colle à l'actu et on colle à notre municipalité et donc on va parler pendant une heure de design. Pendant cette heure-là, on va expliquer un peu déjà qu'est-ce que c'est que le design, car c'est un truc qui est un peu abstrait. C'est vrai, on le voit sur les panneaux, dans le journal municipal, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? En fait, le design, c'est imaginer et créer des objets avec comme objectif d'améliorer son utilisation ou un processus. Du coup, en fait, le design, c'est lié à plein de branches, que ce soit l'art, on y reviendra plus tard, mais aussi l'industrie, l'architecture et l'urbanisme, le marketing, etc. En fait, le design, il peut critiquer le projet capitaliste, mais pour autant, il est à la pointe. En fait, cette phrase, elle est issue d'un des panneaux de la Biennale. Et en fait, du coup, la pointe du capitalisme, elle se développe sur plusieurs aspects, et notamment par le thème de la Biennale de cette année, la 10e, qui est le thème de la mutation du travail. Et du coup, on y a été un peu, on va vous parler de différentes choses qu'on a pu voir. Et puis, on va d'abord lire un texte qui est sorti sur Interchouette concernant cette biennale. Je vais lire quelques extraits. « Alors, hop, désolé, un petit réglage à faire, forcément, c'est joueur âgé courage. Bref, plus on parle de design, moins on sait ce que dessiner veut dire. Le design design, l'enrobage publicitaire des marchandises qui sortent sur le marché. Le marketing culturel des désirs dissous dans la consommation. Le merchandising lucratif de l'émotion du manque. La spéculation bourgeoise sur les sensations de l'absence. Claude Weisbuch, professeur de gravure à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, disait dans les années 70 que la chose la plus importante pour bien dessiner, c'est de se mettre à l'aise. Ces notions de plaisir et de liberté ont disparu des fabriques à design. On ne compte ou ne compte que la démarche du travail. Sa conformité et sa souffrance, sous le règne de la marchandise et de sa mise en représentation spectaculaire, la création n'est plus que de poudre de perlimpinpin jetée aux yeux des contemplatifs crédules. Dans l'ombre de la confusion, les autoproclamés créatifs sont des illuminés qui se prennent pour le créateur. L'homme moderne a faim de création. Alors comme disait Marcel Duchamp, on achète de l'art comme on achète des spaghettis. L'art est la présentation d'un processus de fétichisation de la marchandise. La réalisation d'une œuvre n'est plus que le support de son développement stratégique. Seule la conception du produit est représentée dans les vitrines à contemplation. L'art est la fabrique publicitaire du merchandising novateur. Ils ne font pas de tableaux, ils font des chèques, dira encore Marcel Duchamp. Sur ce marché du culturel, seul le bourgeois qui achète décide de ce qui doit être bon et fixe la valeur marketing à la bourse des stratèges. L'art sert de publicité suprême à un capitalisme totalitaire qui se croit triomphant. Et voilà que la Biennale du design a pris comme objectif et comme promesse de rendre le durcissement de l'esclavage du travail en mutation. Largement critiqué et contesté lors des manifestations pressantes du printemps 2016, désirable et magnifique dans la perspective d'une nouvelle société technologique du bonheur informatisé, changer l'image d'un travail devenu invivable en design, supérieur d'une activité magnifiée en faisant passer l'esclavage d'un travail obligatoire pour une liberté émancipatrice. Travailler, c'est souffrir de devoir obéir à un impératif absurde, avilissant, destructeur, celui de produire de marchandises quelconques de manière rentable, à n'importe quel coût physique, psychique et écologique. Travailler, c'est souffrir de devoir obéir à des chefs et ou à des clients, de subir du harcèlement, des humiliations et autres souffrances. Travailler, c'est souffrir de devoir exécuter cet impératif dans des conditions éprouvantes physiquement comme nerveusement. D'où du stress, des dépressions, des déformations physiques, des accidents du travail, des burn-out, des suicides. Travailler, c'est devoir accomplir une activité généralement indifférenciée, absurde et ou destructrice. Travailler, c'est souffrir d'être réduit à un robot, une machine, un esclave. Travailler, c'est souffrir de rentrer vidé chez soi, de ne pas pouvoir vivre pleinement. Travailler, c'est souffrir d'être en perpétuelle guerre d'agression psychique avec ses frères et ses sœurs en raison de la concurrence capitaliste. Travailler, c'est souffrir d'être menacé, chaque seconde, d'élimination économique, d'obsolescence productive. Travailler, c'est souffrir d'une précarité permanente. Travailler, c'est souffrir d'être traité de capital humain, de mauvaise graisse, de facteurs humains, de bras cassés, d'inadaptés, de fainéants. Travailler, c'est souffrir d'être un soldat d'une guerre permanente, d'être sacrifié au nom de la patrie économique. Travailler, c'est souffrir d'une augmentation continuelle de sa souffrance au travers des réformes incessantes du travail. Travailler, c'est souffrir. Ne travailler jamais signifie donc n'accepter jamais ce monde où l'on doit vendre son temps d'existence, son activité, son faire comme marchandise produisant d'autres marchandises et de l'argent, comme marchandise produisant un monde de souffrance et de mort. Nous sommes faits pour vivre, pour aimer, pour désirer, pour créer et non pour produire des marchandises et nous vendre comme travailleurs. Quand l'art se réduit au relooking de l'exploitation du travail, il devient la police secrète de la propagande de la marchandisation du monde. Le dépassement de l'art s'exprime aujourd'hui par la révolte dans la rue, réalisation critique de sa mort comme travail aliéné et de sa vie sans entrave comme renversement de perspective. Contre la loi du travail et sa propagande publicitaire, détournement, blocage et sabotage. Bref, c'est un texte qu'on a trouvé sur un site Révolution Verte et qu'on va mettre en lien sur le site de l'émission joueurageetcourage.noblogs.org. Il est plutôt intéressant ce texte et il amène du coup la critique et le lien entre la question du travail et la question de l'art et l'utilisation de l'art. Du coup, on va revenir un peu sur ces deux concepts et on va aborder ça après un petit morceau. C'est un morceau de Gas Mask Terror, un groupe qui est passé il n'y a pas longtemps lors du concert de la France Pu, qui fait une émission sur nos antennes du 89.5. Et c'est une chanson qui parle du travail, du jour de paye en fait. En gros, les paroles, c'est ça raconte que on vit, il faut se révolter, il faut planter ton patron, reprendre ton temps, ta vie en main. Et puis voilà, aujourd'hui c'est le moment où il faut faire payer, et donc c'est jour de paye. Voilà, et jour de paye, c'est le titre de l'album, du morceau. Et donc voilà, Payday. Ça, c'était un son qui est diffusé dans une installation de la Biennale, une installation dite de cocooning et de relaxation pour les salariés fatigués de leur emploi et surtout de leur patron. Voilà, c'est censé les apaiser. Du coup, en abordant la question du travail, etc., on aborde un point qui est aussi l'implication des entreprises dans la Biennale. En fait, il suffit de feuilleter le programme de la Biennale ou l'agenda stéphanois, le petit magazine qui décrit un peu tout le menu des réjouissances, pour en fait voir qu'il y a une large place qui est donnée en fait aux entreprises qui ont en fait attendent aussi des retours. Alors je vais donner deux exemples. Dans le off, par exemple, il y a dans le off, il y a aimer son travail et pourquoi pas moi. Alors ça, c'est au mixeur avec des séances de soutien et de discussion autour de la recherche d'emploi. Et en fait, cette activité est proposée par Ensemble un job, qui est en fait un site qui a une entreprise qui a un site internet qui en fait qui est payé, enfin que des chômeurs payent donc 350 € pour en fait qui organise des réunions entre chômeurs qui ou personnes qui veulent changer d'activité. En gros, c'est des personnes qui font de l'argent sur la flexibilité du travail et avec des pseudos aide, soutien à des personnes en précarité. Et donc ces gens-là, ben ils font, ils ont un stand, une activité au mixeur pendant 2 jours. Mais on peut aussi, en continuant de feuilleter un peu ce bordel-là, on tombe sur une double page. Alors, il y a une page où il y a une pub pour La Poste, et de l'autre côté, il y a le prix pour le design de service par le groupe La Poste. Alors en fait, ce prix consiste à faire un concours aux designers, aux élèves designers, pour avec 10 000 euros en jeu quand même, pour inventer des systèmes qui permettent de penser le bureau de poste de demain. Du coup, des bureaux de poste qui seront connectés, faciles, ludiques, etc. Et qui seront du coup aussi, cette info, etc. Forcément, ça amène la question des bureaux de poste et de l'accessibilité. Et ça arrive à un moment où, eh ben, par exemple, on annonce sur Saint-Etienne la fermeture de 10 bureaux de poste sur 22 quand même. Et du coup, ben voilà, on voit exactement en fait comment la Biennale participe à une dynamique globale qui après se répercute et est répandue dans les entreprises ou dans la société en fait. Du coup, voilà, pour l'implication des entreprises, mais alors, c'est quelques exemples, mais il y en a plein. Du coup, on peut ensuite parler de la question du travail, car du coup, c'est le thème de cette biennale. Comme le disait le texte qu'on a lu plus tôt, en fait, ça arrive en fait à un moment après effectivement un printemps de mouvement social qui questionnait la question du travail, de la précarité et de l'emploi, quoi. Et du coup, ces chers designers, en fait, se posent des questions sur c'est quoi le travail de demain, etc. Bon, en fait, ils ne posent jamais la question de le problème, c'est le travail et c'est le capitalisme. En fait, juste, il faut aménager le travail pour que ça soit plus performant, plus créateur de richesse. Alors du coup, leur stratégie et le truc qui revient, le concept, parce qu'en fait il y a plein de concepts hein, dans cette biennale, c'est bourré de concepts, c'est des artistes et des intellectuels qui réfléchissent, hein, donc une sorte des concepts, c'est aussi le moyen de ne pas trop comprendre ce qui se passe, une sorte de concept du playboard. Alors qu'est-ce que c'est le playboard? Le playboard, ça vient de play, jouer, et labor, travail. En gros, c'est l'idée que ton activité, ton travail doit être ludique et que du coup aussi tes loisirs soient ton travail. En fait, c'est qu'il faut mixer les deux. Alors du coup, c'est-à-dire qu'il faut que faire que lors de tes temps de loisirs et de tes temps d'activité pour toi, et ben cela crée des richesses, que ce soit avec des utilisations de logiciels, de Facebook, des trucs comme ça, mais aussi des moteurs de recherche, des trucs comme ça, mais aussi que ces activités-là en fait soient un truc que tu peux marchandiser et amener sur le marché du travail. Et du coup, en fait, la frontière entre les moments, tes moments de loisirs et tes moments de travail, et ben sont floues. Jusqu'à l'idée, c'est de qu'il n'y en ait plus en fait. L'idée, c'est de faire que de ludifier, que le travail se ludifie, que les éléments de jeu s'infiltrent dans les tâches et l'organisation du travail, afin que soit soi-disant moins pénible, ou en tout cas que ce soit plus compliqué de se révolter et de l'analyser, de le critiquer, de s'en dégager. Et du coup, ça c'est développé sur plein d'aspects dans la biennale, et c'est super fort et super présent, au point même qu'ils ont installé une espèce de salle pour adolescents, qui est une salle en fait de jeu. Alors je vais vous lire la présentation. La Teen Dark Room, la salle de jeu du travail. Alors le Playboard, Play plus Labor, concept développé par Trevor Scholz, chercheur dans le domaine du digital labor, prend tout son sens dans la Teen Dark Room, À l'abri des regards, les jeux vidéo critiques de la Mol Industria et un ensemble de serious games vont mettre les ados au travail. Fini le couchsurfing à la maison, fini la promenade de santé à la biennale, au boulot et avec le sourire. Alors en fait, on va écouter en fait un son volé, un petit son volé d'une visite guidée et du coup de comment un guide présente un peu ses jeux. Alors le son est pas forcément terrible, mais il faut tendre l'oreille. Là, en fait, le micro arrive à un moment où il explique un jeu où le joueur donc prend la place d'un douanier et il fait vivre sa famille en travaillant et en du coup en étant productif, c'est-à-dire en empêchant les personnes sans papiers de passer, en les expulsant et en même temps en essayant de permettre une circulation des marchandises. Voilà, toute mauvaise foi et tout truc dégueulasse sont sur dans la biennale. On va écouter ça tout de suite.
Au bon endroit, la bonne chose, on doit faire attention à telle ou telle personne et en fait on doit faire tout ça en effectuant le moins d'erreurs possible. Et à chaque erreur qu'on fait, on gagne moins d'argent. Et en fait on est pris entre deux trucs, c'est-à-dire que à chaque jour on gagne de l'argent pour nourrir notre famille, mais en même temps on est pour nourrir notre famille en train d'effectuer un travail qui est assez inhumain parce que du coup on doit jarter les gens, on leur dit non, on les dénonce directement. Et donc on est mis dans la place du tortionnaire en fait. Le tortionnaire. Je vous invite en fait à y jouer peut-être un peu si vous voulez. Sinon vous les retrouvez tous plus ou moins sur internet. Et ça change carrément du rapport normal du jeu parce que ces jeux, voilà, je questionne sur. Alors, en fait, ils font réfléchir à des problèmes d'actualité réels. Plutôt que de nous dénonçant des trucs qui vont pas, ça nous met carrément à la place du preneur des décisions un peu difficile. Ça c'est un mec qui travaille tout seul, il a construit tout seul son jeu. La Mol Industria, ils ont donc le jeu là de l'entreprise, ils ont aussi des jeux où. Mais là on voit les petits bonhommes, ils ont pas de travail. Toutes les souris elles sont vénères parce qu'elles n'ont pas de taf, donc elles tapent au plafond. Et si ça va plus, elles cassent un peu la baraque. À la fin c'est la révolution et on a raté le jeu. Quoi. Enfin, on n'a pas réussi à gagner parce que les petites souris sont révélées. Et en fait, c'est la seule issue, quoi. Il n'y a pas de truc où on va pouvoir trouver la bonne solution. Ils ont un jeu aussi où on joue McDonald's, quoi. On est McDo et on doit produire le plus de bouffe le moins cher possible. Donc on va mettre de plus en plus de pesticides. Ils ont créé ton jeu. Voilà. Je pense que la visite s'arrête là. Par contre, je vous remercie de votre attention jusqu'à présent.
Et oui, vous avez bien entendu, il faut se mettre à la place des preneurs de décision. Et puis on gagne seulement si on arrive à éviter la révolte qui est a priori qu'on ne peut pas éviter pourtant. Du coup en fait dans cet extrait on voit plein de choses, en fait on entend en fait la part du cynisme de ces jeux et aussi de l'idée qu'il y a derrière en fait. C'est qu'en fait, derrière ces jeux, etc., il y a des idées super craignos et super sales qui sont transmises, qui sont bah voilà, la recherche de performance, le contrôle, le capitalisme, quoi. Et en fait, et en même temps, ils ont un discours pseudo alternatif ou quoi, où tu vois la révolte est on peut pas y échapper, et du coup en fait c'est ce biais sur lequel on va essayer de parler un peu, développer un peu maintenant, c'est comment en fait le design, enfin la biennale intègre des éléments dits critiques en fait pour l'annihiler, en fait c'est-à-dire qu'en fait elle à l'intérieur de cette biennale il y a des biais, des détournements, des utilisations de concepts et d'auteurs qui en fait permettent d'empêcher en fait une lecture critique des choses en présentant déjà une critique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, en développant une critique de la biennale, enfin du design à l'intérieur, eh ben on empêche qu'une autre critique puisse exister en fait, puisse avoir la place. Et de ce fait, par exemple, dans le journal de Télé 7, il y a quelque chose qui présente la biennale et l'évolution depuis 1998 de la biennale. La journaliste, en fait, elle insiste beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, tout le monde est bien content et a intégré le fait qu'à Saint-Thé, le design a sa place et a son utilité. Et du coup, effectivement, il n'y a pas eu, à part quelques textes qui sont sortis, des textes critiques et peut-être des actions, mais en tout cas pas connus, il y a eu très peu de critiques et de révoltes contre cette biennale. Comment la biennale a organisé l'installation d'une critique à l'intérieur de son enceinte ? Eh bien, par exemple, en installant, des ZAT, une ZAT. Alors, qu'est-ce qu'une ZAT ? Eh bien, une ZAT, c'est une zone autonome temporaire. Alors, en fait, ça, c'est un concept d'Akimbe, qui est en fait un auteur anarchiste, qui a conceptualisé un peu une des formes d'organisation de société anti-autoritaire. À quoi ça pourrait ressembler et comment ça pourrait fonctionner ? À partir d'exemples de pirates, il me semble. Et du coup, en fait, la biennale a intégré à l'intérieur d'elle une ZAT, donc une zone autonome temporaire, où des designers et des personnes développent un tiers-lieu. Alors, qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? Il développe plusieurs choses, mais en tout cas, quelque chose qui prend beaucoup de place dans cette ZAT, c'est le tiers-lieu, qui est en fait un espace où des créateurs, des gens en fait viennent et ils vont incuber, comme on dit, comme ils aiment dire là-bas, de leur énergie et leur création à des fins de fonctionnement différents, à des fins de création en fait. Et du coup, en fait, ils remettent en question le travail, selon eux. Parce qu'en fait, du coup, les personnes ne vont pas dans une entreprise, dans une usine pour bosser bêtement, etc. En fait, ils vont dans un espace où, en fait, leur interaction, leur énergie se rencontre, se mixe et, en fait, va pouvoir créer des choses qui vont designer notre futur. Et du coup, peut-être le futur, le capitalisme 3.0, en fait, ça remet en question ce travail. C'est que du coup, et ça revient en fait à la question de la part de ludique dans le travail, dans ta création, le travail qui est défini dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. En fait, c'est que du coup, t'es complètement détaché de ce que tu fais et pourtant, tu participes au fonctionnement et à l'amélioration du système capitaliste. Et en plus, il y a aussi un rapport super de classe, car en fait, du coup, ça dit que toi, ton travail, il est seulement intellectuel, etc. et que les choses sont complètement distantes de la fabrication en elle-même. Et en fait, cette fabrication en elle-même, c'est d'autres personnes qui le font et ça n'existe, c'est nié en fait. Et les violences que ça induit, que le design et que ces chercheurs font pour fabriquer les choses, etc. Imagine pour les travailleurs manuels ou l'industrie, et ben en fait c'est nié et c'est passé à la moulinette en fait. C'est que le travail du coup c'est plus ça. En fait le travail c'est la création, c'est le loisir. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair sur ce point-là. Et du coup, on va passer un petit morceau de Kraftwerk Robots. L'idée de passer ce morceau-là, c'est parce que il y a une partie dans la biennale qui est sur Nous sommes des robots, We are the robots. Et voilà, ça m'a fait penser aux paroles de cette chanson de Kraftwerk. Thank you. Warbots. Et donc voilà, de Kraftwerk. Et du coup, là, on va essayer de parler d'un autre truc. On parlait sur la question de la critique et comment elle intégrait la critique. Une autre manière d'intégrer la critique et donc de l'annihiler, c'est en fait de faire que les différents acteurs qui pourraient amener une critique de la biennale du design, eh ben, ils participent d'une manière ou d'une autre. Alors du coup, en faisant ça, comment la mairie de Saint-Étienne s'est préparée à ça? Eh bien, elle a installé notamment, il y a plein de choses, eh ben, par exemple la rue de la République du design. Alors du coup, ben, à Saint-Étienne, pour plein de gens qui ne connaissent pas et plein de gens qui arrivent comme ça, ils disent « Ah ouais, mais Saint-Étienne, c'est pourri, il y a plein de bâtiments vides et de magasins et tout ça, bref, c'est mort et tout. » Eh bien, du coup, pour que vu qu'effectivement, ça a pris cher avec la crise et tout ça, et que du coup, effectivement, il y a plein de locaux commerciaux vides, bâtiments délabrés, etc., et ben, la mairie a prête, pendant le temps de la biennale, des locaux à des associations pour qu'ils puissent essayer d'avoir une vitrine, en fait. Et du coup, ces assos, d'une certaine manière, vu qu'en fait ces assos qui sont en demande et en nécessité d'avoir des lieux, et ben elles acceptent. Et en fait, du coup, pour les gens qui arrivent, et ben ils disent ah bah en fait, même les assos, elles sont partie prenante de la biennale. Ça fait comme un off, comme un truc alterno, etc. Sauf qu'en fait, ça relève juste qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses et qui ont besoin de lieux pour se réunir, exposer ce qu'ils font et vivre, etc. Et en fait, que ces lieux-là, la mairie et les bailleurs préfèrent le reste du temps les voir vides et fermés pour spéculer sur le reste des terrains. Et puis ça relève aussi le fait que la mairie elle rase des immeubles vides, qu'elle expulse des gens et qu'elle exproprie des activités. Bref, du coup, dans ces locaux, notamment dans la rue de la République, et ben, par exemple, ben, nous, à Radio Dio, ben, on, indirectement, on y a participé aussi, parce qu'il y a une émission qui a été faite là-bas. Et du coup, en fait, le fait de, indirectement d'y participer, et ben, en fait, on l'a fait vivre, et en même temps, ça devient encore plus compliqué de la critiquer. C'est là aussi où c'est malin la biennale, comment elle s'organise. Et en fait, en abordant ce thème, on aborde aussi la question de c'est quoi l'impact de la biennale du design à Saint-Étienne. Alors là, il y a une ville invitée pendant cette biennale, c'est Détroit. Alors Détroit, je pense plein de gens voient ce que c'est une ville aux États-Unis qui a pareil pris grave cher avec la crise et qui du coup est super connu pour plein d'usines en friche, plein d'espaces super pauvres, voilà. Et en fait, ben là-bas, ils ont fait comme à Saint-Étienne, ils ont utilisé le design. Ils ont fait venir des artistes pour utiliser les espaces et pour en fait, ben, d'une certaine manière, essayer de changer l'image de la ville, essayer aussi de l'embourgeoiser et de la modifier. Alors ben oui, parce que le design, c'est pas seulement élaborer des bancs anti-SDF, des publicités intelligentes ou des caméras de vidéosurveillance avec dedans des trucs USB où tu peux charger ton téléphone portable. Le design à Saint-Étienne, ça participe aussi une prise en main et un contrôle des espaces et de la ville. Et ça participe, du coup, c'est un outil pour la mairie pour accélérer la restructuration urbaine. Et du coup, en fait, ça, c'est une action qui est entretenue et soutenue, etc., par d'autres acteurs, et notamment un acteur associatif qui est l'objet d'un article dans le Couac, le prochain numéro Couac, enfin le troisième numéro du Couac, qu'on va vous lire maintenant. Alors hop, un peu de petite installation, c'est parti. Alors l'article s'appelle « L'espérance design, notre ville n'est pas votre laboratoire ». La grande foire au design est de retour à partir du mois de mars. Un mois de consensus local acheté à coup de CDD précaires payés à 6 € de l'heure. Et oui, c'est moins que le SMIC. De nécessité d'intermittence à boucler et de carence de subventions associatives. Un consensus acheté par le manque de travail, de subventions pour les assos, la période où grappiller pour garnir un temps soit peu, les poches sont trop vides. La biennale, celle de 2015, est la première dans laquelle j'ai baigné en tant qu'habitant stéphanois. Il y a 2 ans, j'ai été pour le moins chanceux. Mon quartier abritait une de ces antres, le BEAU, B-E-A-U, bureau éphémère d'activation urbaine du quartier Jacquard. Les expériences de l'équipe de la cartonnerie, les champs à la main de l'EPAZ, on racontera après ce que c'est que l'EPAZ, qui l'a fait naître, s'étalaient partout dans les rues alentours. Des vitrines vacantes repeintes aux couleurs rutilantes et fluo, il faut que ça se voie, abritaient une bonne dizaine de mascarades de projets participatifs, multiculturels et citoyens. Tous ces mots vidés de leur sens depuis qu'ils sont indispensables à tout dossier de subventions payantes. Car l'adhésion était plus que partielle. Ce ne sont pas les habitants de mon quartier que j'apercevais à travers leurs vitrines. Et Jacquard vivait bien avant leur réhabilitation. 4 marchés par semaine à l'ambiance plus que métissée, des enfants grouillant balle aux pieds sur la place à 16 h, les habitués du café-terrasse infini. La vie quotidienne quoi. Ramener de l'activité et du lien semblait pourtant être l'objectif affiché par le très artistique concept du beau. Dans les faits, le projet semblait ignorer jusqu'à l'expérience du mot sociologie. Leur journal l'a bien prouvé. Ne parlant que d'urbanisme, de propreté et d'un vivre ensemble flou. Ni origine sociale, ni origine culturelle n'apparaissait au fil de ces lignes. Détaillant les objectifs de l'opération, ce projet a consisté notamment en des performances théâtrales douteuses. Imitation pastiche d'une visite de musée à travers les rues et le marché, en mode festival d'Aurillac. Précisons que cela donnait un public bobo, souvent anglophone par un quart international, observant la vie des populations issues de l'immigration, rassemblés là et faisant leurs courses au rabais des grossistes. Rappelons que j'ai eu l'impression d'être un animal dans un zoo. Et concluons ce point en demandant si la limite de l'humour n'est pas le mauvais goût envoyé au visage des moins favorisés et avec un sourire de gauche. ou peut-être était-ce juste un problème d'angle, de recul. C'est possible, mais tout aussi grave. Il y eut aussi cette benne transformée en banc, qui abritait les pauses déjeuner des ouvriers du chantier d'un immeuble. La seule assise existante du coin, donc pas le choix. Cela n'a pas semblé choquant à Carton Plein de proposer l'association à son voisinage de s'asseoir dans une poubelle. Le quartier, lui, ne s'y est pas trompé. Le banc Ben a vite croulé sous les déchets. Les chaises d'école installées ici et là ont été détruites pour effacer les mornes heures passées sur leur bois dur. Les installations dégradées, les façades taguées dès la peinture sèche. Les anticorps ont naturellement réagi au virus. Et bien sûr, une fois la biennale terminée, les rez-de-chaussée occupés par les concepteurs parasites ont retrouvé le vide du concept du beau, la réhabilitation du vivre ensemble, et retourné dans son dossier de sub, l'équipe de la cartonnerie dans son entre-soi. Et les vitrines ont retrouvé leur toile d'araignée. Pas de désillusion, le côté éphémère était présent dans l'intitulé. Pourtant, tout cela était présenté comme une réussite. Ce ne fut pas le cas à mes yeux, tout simplement car le design n'est pas ancré dans la ville, il n'est que le décor de théâtre, étalant sa splendeur high-tech dans le centre-ville rendu propre. Père Drio et son équipe l'utilisent comme du maquillage de mauvais goût, comme un fond de teint excessif sur un visage un peu fatigué. Tout au plus, sert-il à attirer touristes et investisseurs. Mais le design n'est pas pensé pour les gens du quotidien stéphanois. Il est guidé par l'argent. Il offre des bancs publics où l'on doit s'asseoir seul. Il vend les abat-jours à 800 euros et des chaises à 1000. Il démonte les abribus en plein hiver, à l'heure de la neige, du vent et de la pluie, pour les équiper d'une prise USB. Peut-être les fonds publics seraient mieux investis dans la Stas s'il rendait Moreno accessible en bus après 22h30, par exemple. Ou s'il renforçait les rues qui s'effondrent, plutôt que de les paver de bonnes inventions. Le design est dévoué à l'attractivité et non à la convivialité. Comme l'architecture, il est utilisé pour contrôler l'espace, donc les populations. Il est vidéo-surveillé, hyper-connecté. À Saint-Thé, il est l'outil numéro 1 de ce que l'on nomme la gentrification. Accentuer l'embourgeoisement du centre pour repousser les indésirables vers les périphéries. Cherchez donc un équipement design à la Cotonne ou à Montréno. Ce processus est long et lent, parfois presque invisible. Mais une ville comme Marseille, malgré son caractère plein et entier, reste la preuve que l'acharnement des politiques urbaines peut avoir raison des plus tenaces résistances populaires. Car ces politiques se placent dans une durée qui dépasse une génération de lutte. Car elle intègre la gauche coule à la transformation du quotidien. car elles sont à même d'intégrer la critique en leur sein, démocratie libérale oblige. Car elles utilisent les montages détournés, les sympathiques associatifs de la cartonnerie sont en fait missionnés pour appliquer les politiques des décideurs. De tous les niveaux de l'État, ça passe mieux. Car elles offrent leur chance aux jeunes issus des études de design, car ils savent donner l'impression que c'est mieux qu'avant. Sauf qu'on ne peut pas tous y vivre ensemble. Pour rester chez nous à Saint-Thé, il est donc grand temps de dédesigner nos rues ou de les designer à notre sauce et de ne surtout pas tomber dans le panneau vernis de la banale du design. Alors voilà, on va la cartonnerie, on a mentionné deux choses, la cartonnerie et les bases. On va essayer de. Il y a des notes de bas de page qui indiquent ce que c'est. Donc la cartonnerie, c'est un espace public de proximité, expérimental et temporaire, qui se situe dans le quartier Jacquard. Le 24 novembre 2010 à Saint-Étienne, sous l'impulsion de l'EPAZ, le site des cartonnages stéphanois devient un espace public temporaire conçu et animé en plusieurs épisodes par l'association Carton Plein. Il est aujourd'hui en gestion municipale et participe d'une recherche d'action pluridisciplinaire sur la ville et le jeu. Alors en fait, ça fait écho à un autre local qui a ouvert pendant cette biennale-là, c'est le local Ici Bientôt. Enfin, qui a ouvert il y a quelques temps déjà, du côté, en fait, en dessous, entre la CAF et la Place du Peuple. Et en fait, qui fait la même chose pour le quartier Beaubrun. Bref, en fait, c'est la même chose, c'est une espèce de colon de la restructuration des quartiers. Et l'EPAS, qu'est-ce que c'est? C'est l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. En fait, il fut monté à l'initiative de l'État et il est financé à de moitié par ce dernier, à 20% par la ville et 10% par la métropole, le département et la région, selon son site. En tout cas, il n'hésite pas à endosser plusieurs rôles selon les opérations. Au-delà d'être un aménageur, il est également promoteur, immobilier, gestionnaire, investisseur ou commercialiseur. Gaël Perdriau est le président de son CA, bien sûr, et parle de son action en ces termes. C'est la transformation urbaine et la dynamique économique de la ville qui sont en jeu. Cela prend du temps, il leur suffira donc de patience, nous sommes prévenus. Voilà, dans ce texte que vous pourrez retrouver dans le Couac, on parle aussi, ça parle pas mal de Marseille, enfin ça mentionne Marseille, qui est une ville aussi populaire, où en fait il y avait des quartiers populaires dans le centre-ville, et où il y a une véritable guerre urbaine qui est installée pour les chasser du centre-ville. Et en fait, dans cette guerre, on va dire, de basse intensité, il y avait... il y a eu plusieurs étapes, notamment l'utilisation de la culture avec Marseille, capitale européenne de la culture. Et en fait, donc, il y a cet exemple de Marseille, mais quelques années plus tôt, en 2004, il y a eu Lille qui a eu en fait le même phénomène de gentrification et d'utilisation en fait de l'art comme outil pour réaménager les quartiers et reprendre en main. Des quartiers. Par rapport à ça, il y a un livre qui est super bien, qui s'appelle La fête est finie, et compile plusieurs textes critiques sur la position des artistes et la gentrification. Ces livres, il en sera question dans dans l'extrait sonore qu'on va passer. C'est un extrait d'une émission qui s'appelait Basse intensité, et donc une émission marseillaise, et qui reprend en fait l'annonce et l'ouverture de la capitale européenne de la culture à Marseille, et qui mentionne et lit des extraits de La fête est finie.
Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Déjà, des banderoles annonçant l'événement ont fait une apparition triomphante sur les façades de plusieurs bâtiments publics. Pour n'en citer qu'un, la Chambre du commerce et de l'industrie sur la Canebière. N'y voyez pas un hasard. Le président de l'association de promotion de cette candidature de Marseille au titre de capitale européenne de la culture, M. Pfister Jacques, est aussi président de la Chambre de commerce et fervent partisan de la privatisation du port. Voilà qui en dit déjà long sur la collusion des intérêts liés à cet événement avec le monde des friquets et autres rapaces du même acabit. Le lobby patronal du coin, Club Ambition Top 20, regroupant une cinquantaine de patrons et de cadres, se fait déjà l'ardent supporter de cette candidature, elle-même portée par l'ensemble des collectivités locales de la région. Depuis la création de ce sinistre titre en 1985, diverses cités européennes, à raison de deux par an, ont eu à le porter. La dernière ville française à s'en être vue affublée fut Lille en 2004. Dans un livre intitulé « La fête est finie », des complices en avaient peu après tiré quelques conclusions que nous estimons judicieux de reprendre avant d'en revenir à certains détails croustillants du projet marseillais. Quand une rangée de CRS fonce sur la foule, le plus grand nombre sait encore comment réagir. On fait des barricades de fortune pour ralentir leur marche, on ramasse quelques pierres, des bouteilles et l'on se prépare à courir. Mais quand c'est Lille 2004, capitale européenne de la culture, qui nous tombe sur le coin de la gueule, nul ne sait trop comment s'y prendre. Chacun devine que c'est un sale boulot qui se prépare et qu'il y a donc une parade à inventer. Mais laquelle et contre quoi? L'idée qu'ici le capital n'avance plus à coups de canon, mais précédé d'une milice dansante, bruissante, bigarrée d'artistes en costume et de branchés sous exta, ne nous est pas encore familière. Quand nous entendons le mot culture, nous ne pensons pas encore à sortir notre revolver.
On ne saurait mieux dire, irrémédiablement, cette candidature nous donne la nausée, déjà. Avant même que les flanflans médiatiques ne nous aient encore submergés de propagande. Nous avons à peine besoin d'en savoir plus sur le contenu du projet pour décider de nous opposer, par tous les moyens, à cette mascarade.
Pour devenir capitale, les villes doivent ériger un projet reposant sur deux axes. D'une part, il s'agit de faire exister l'Europe dans les caboches des gens, d'emporter l'adhésion de chacun à cette machine de guerre économique. D'autre part, de procéder à la rentabilisation des espaces urbains sous couvert du rôle historique des villes dans l'émergence d'une culture européenne. Pour le projet marseillais, ces deux dimensions ont été respectivement affublées de petits noms évocateurs. Le partage des midis et la cité radieuse. Quand ils parlent de partage des midis, nous entendons partage du gâteau. Quand ils disent cité radieuse, nous entendons tôle à ciel ouvert.
Marseille 2013 n'est pas un horizon lointain, ça a déjà commencé. Ce qu'ils appellent « partage des midis », par exemple, ce n'est que la continuation d'un processus entamé en 1995 lors de la conférence européenne de Barcelone, qui inaugurait un partenariat euro-méditerranéen comme fer de lance d'une partie des activités économiques et politiques de l'Union européenne. Ces derniers temps, et avec insistance, cette perspective revient dans la bouche du super-président sous le nom d'Union de la Méditerranée, quitte même à agacer une partie de ses collègues européens qui voient d'un œil inquiet cette volonté de faire glisser le cœur de l'Europe vers son sud, avec comme capitale Marseille, située pile poil au carrefour du couloir vital rhodanien et de l'arc méditerranéen, c'est-à-dire encore mieux que Barcelone ou Gênes, ses éternels ports rivaux. Ainsi, Euromed, dont nous connaissons surtout le volet marseillais, est-il avant tout le projet de réorganisation à grande échelle de l'Europe et de l'Afrique du Nord, en allant jusqu'à la Turquie? Bien entendu, l'enjeu reste le même, qu'il s'agisse de Belzunce ou du Maghreb. Pacifier un territoire pour en tirer un maximum de profit en termes de matières premières, pétrole et gaz, de main-d'œuvre, migrants, de débouchés, nouveaux marchés.
On comprend mieux ce que racontent les rédacteurs de la propagande officielle pour Marseille 2013 lorsqu'ils nous vendent l'idée que Marseille
prétend constituer durablement une métropole de l'euro-méditerranée culturelle.
Ou encore
qu'aucune géopolitique du développement ne peut faire désormais l'économie de la culture.
Ainsi, à coup de
dialogue des peuples et des cultures,
il sera question pour les artistes de plancher sur des thèmes allant du plus folklorique, la gastronomie, au plus épineux. La thématique homme-femme a bien quelques relents colonialistes. Ah, ces pays du Sud que l'on doit civiliser. Les migrations, les religions, le partage de l'eau sont autant de questions qui tourmentent la vieille Europe. Le tout sur fond de
résolution des conflits de mémoire
en mettant en place
des actions qui apaisent les passés douloureux liés aux mémoires coloniales.
Nous y entendons faire fi du passé colonial et encore et toujours exploiter, pacifier ce que Euromed, tant au niveau local qu'international, parvient à grand mal à réaliser, mais ce que vient de passer comme une lettre à la poste avec ce vernis tout beau, tout joli de la culture.
Et maintenant, côté Cité Radieuse, le versant
Laboratoire de la rénovation urbaine par la culture.
Leur prose se vante de convier des créateurs de villes et de paysages. Voilà qui fait froid dans le dos. Et ce n'est pas un hasard si ce titre a souvent été attribué à des villes au passé laborieux, Gênes et Lille en 2004, Liverpool en 2008. Des villes que l'on dit en crise, des villes qu'il faudrait reconvertir pour les dédier plus complètement au fric et à la rentabilité du capitalisme contemporain. Flux de marchandises et surtout de capitaux, tertialisation des activités, tourisme, captation des richesses diverses et variées des pays limitrophes de l'Union européenne, etc. Cet aspect des choses est au cœur de ce que les mêmes complices lillois ont bien senti. Cet événement est une offensive, nous disent-ils.
De pays en pays, de cité en cité, de quartier en quartier, il y a un cycle de la normalisation. Tout commence par un quartier populaire. Un quartier populaire n'est pas un quartier pauvre, du moins pas nécessairement. Un quartier populaire est avant tout un quartier habité, c'est-à-dire ingouvernable. Ce qui le rend ingouvernable, ce sont les liens qui s'y maintiennent. Lien de la parole et de la parenté, lien du souvenir et de l'inimitié, habitude, usage, solidarité. Tous ces liens établissent entre les humains et les choses, entre les lieux, des circulations anarchiques sur quoi la marchandise et ses promoteurs n'ont pas directement prise. L'intensité de ces liens est ce qui les rend moins exposés et plus impassibles au rapport marchand. Dans l'histoire du capitalisme, cela a toujours été le rôle de l'État que de briser ces liens, de leur ôter leur base matérielle, afin de disposer les êtres au travail, à la consommation et au désenchantement. Donc, il y avait un quartier populaire, un quartier habité et alentour le désert, une société de déracinés. N'importe quel déraciné sait la douceur d'une telle oasis, l'apaisement qu'il y a à se loger dans un endroit peuplé, c'est-à-dire peuplé non seulement par des humains, mais encore par des cris, des odeurs, des bagarres, des complicités. L'afflux de petits bourgeois désargentés dans les quartiers populaires ne s'explique pas par la seule faiblesse des loyers, ni par le fait que quelques squats d'artistes, ouverts là dans les années précédentes, les y auraient préalablement introduits. La capacité à trouver folklorique toutes les traces des liens anciens, c'est-à-dire à les appréhender esthétiquement, joue ici à plein. Il suffira alors que la mairie civilise un peu la rue, refasse le macadam et lance son grand projet de réhabilitation-muséification pour que s'épanouisse le nouveau quartier branché de la ville, avec ses bars altermondialistes, ses journées portes ouvertes sur les ateliers d'artistes et autres sinistres animations. Ce n'est plus désormais qu'une affaire d'années pour que, les loyers montant, et les anciens bâtiments industriels étant massivement changés en lofts spacieux, la nouvelle population de citoyens prennent la place de l'ancienne. On n'oubliera pas, en guise d'adieu, de laisser ça et là quelques clins d'œil à l'usage passé des lieux. Le garage sera un bistrot couru entre tous, et la filature servira des déjeuners plus bio que nature. Les espaces urbains vivables se réduisent, les courées se ferment. Il est désormais, paraît-il, interdit de s'attarder en bas de chez soi. Et contrairement à la propagande, il est devenu totalement incongru, pour ne pas dire inconvenant, d'utiliser la rue, non pas pour faire du shopping, mais seulement pour se promener, vadrouiller, traîner, tchatcher, s'engueuler, vivre. La ville se retrouve maintenant sur les guides touristiques de nombreux opérateurs. Elle est devenue soucieuse de son image. Et nous nous transformons, peu à peu, en objets décoratifs pour les photos de milliers de touristes.
Ce processus de dépossession des espaces vivables ressemble à s'y méprendre à ce qui se joue depuis quelque temps déjà dans le quartier de la Belle de Mai, par exemple. Si nous n'y faisons rien, le titre de capitale européenne de la culture sera le coup de grâce asséné à ce quartier, déjà pris en tenaille par l'extension du périmètre Euromed et la friche de la Belle de Mai. Leur cité radieuse serait une ville métisse et cosmopolite. Nous ne voyons que rafle à répétition et contrôle aux faciès, à Noailles, à Belzunce, à la Porte d'Aix, etc. Ils font l'apologie non sans cynisme du nomadisme, des chemins de traverse. Ce que nous connaissons, c'est la mobilité du travailleur, de son travail chez lui, en passant par la case consommation. Et encore, l'enfer des déportations des sans-papiers.
Sur la méthode, il ne parle que de mobilisation, de la pleine participation des citoyens, des 75 000 associations culturelles de la région et de l'OM. Chacun devrait se faire le collaborateur travailleur gratuit de la réussite de leur projet. Qui, en faisant un petit film avec son téléphone portable, qui, en dessinant sur un petit drapeau blanc distribué à chaque citoyen par voie postale. Pour nous, le drapeau blanc est et restera symbole de reddition. Face à cette volonté de pacification de nous soumettre à des intérêts qui sont contraires aux nôtres, nous ne voyons qu'une chose à faire, brûler le drapeau blanc et déterrer la hache de guerre.
Premier acte. Ô, toi, habitant, culturez-le de tout poil, déserte, ne te laisse pas séduire par la patte du gain. Renonce à cette collaboration. L'alibi culturel ne doit pas aveugler. En embuscade, il y a toujours une armada d'entrepreneurs, de cadres, de flics et de touristes. Un tel événement, et il en est de même pour les JO et autres America's Cup, ne sert qu'à faire passer la pilule de la destruction de nos vies à grands coups d'infrastructures, de flicage, d'expulsion. Ici, l'opération se fait avec
les armes culturelles de dialogue et de collaboration,
comme ils disent. Et ça ne fait que commencer. Face à l'avis de mobilisation générale, il ne suffira pas de déserter. Passons dans les rangs ennemis. Car cette candidature, ce n'est qu'une bataille de plus dans la guerre de basse intensité qui nous est livrée à Marseille comme ailleurs.
Pas même la fiction à Lille comme ailleurs, ça pue le fric 3 mois.
Non, ça ne me plaît pas, non, Anthony 2004, débarque en K4, faire caca devant chez moi.
Ma ville est ce putain de parc où gravitent leurs ambitions. Ta vie sera ce parc si telle est ton intention.
La politique de Martin,
on en fait des tartines au brie. Ces keufs sont trempés, c'est ma furie.
Ils ne savent que faire de la misère des quartiers populaires. Savent que fliquer les rues pour un état sécuritaire.
Nous faire taire, les complaire. Ils rêvent que les compleurs, on complote. Nous faire taire, les complaire. Ils rêvent que les cons pleurent, on complote,
ils crèvent,
ils crèvent.
Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose.
Et Et voilà, ça se termine comme ça avec Joie, Rage et Courage. En faisant des liens entre Saint-Etienne, Marseille et Lille. Et donc, ben voilà, en espérant que ça vous a plu, en espérant que ça vous donne la pêche, ça vous donne l'envie de faire plein de trucs. Et donc, ben voilà, un salut, un joie, rage et courage aux personnes qui, à qui on a été, enfin, à qui on a traîné à la Biennale. Voilà, merci pour toutes ces discussions et ces échanges, c'était cool. Et puis un salut à tous ceux qui lâchent rien. Et puis rendez-vous le mois prochain et en attendant, rendez-vous dans la rue. Allez, qu'elle soit design ou pas, elle reste à nous. Et bien sûr, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de mentionner que si vous voulez nous contacter, nous insulter ou autre, on a une adresse mail clapclap@riseup.net. Et puis il y a aussi un blog pour Joueurs Rage et Courage qui est joueursrageetcourage.noblogs.org où on va mettre pêle-mêle plein de trucs, notamment les textes du livre La fête est finie. Les sons, les origines des sons, les textes, les origines des textes. Et puis il y a un truc aussi que j'ai pas mentionné, on va mettre le lien vers l'atelier éphémère qui à son niveau aussi lutte contre l'obsolescence programmée des objets et aussi de ce monde. Donc bah voilà, un salut à eux qui est mentionné dans la dernière newsletter le risque du design et ses implications sur notre électroménager. Bref, allez, à bientôt, on lâche rien, portez-vous bien, gardez la pêche, allez,